Merci à tous d'être présents ce soir. Je sais que c'est un peu compliqué, ça commence un peu tôt, on est en plein milieu des vacances scolaires, mais c'est important pour nous de faire cette soirée ce soir. Donc c'est la Fédération de Paris et au niveau de l'association.
L'AISDPK, l'Association Information et Soutien aux droits du peuple kanak.
Qui organisons conjointe cette soirée de la Ligue des droits de l'homme, la Fédération de Paris de la Ligue des droits de l'homme. Voilà. Et bien donc cette soirée va être en double ressort. Donc on va commencer par un documentaire de Mehdi Lalaoui, ici présent, sur Jean-Jacques de Filis, qui s'intitule
Jean-Jacques de Filis, la passion de la justice.
Et donc après nous ferons un petit débat avec Bélior Agile, Manseron, normalement il y a Michel Tubiana, Edouard Plenel, moi-même, et puis qui voudra bien intervenir. Et ensuite dans un deuxième temps
on fera une projection d'un film qui s'intitule Kanaki Nouvelle-Calédonie, la métamorphose du caillou, puisqu'on est à quelques jours du référendum, qui pose la problématique du référendum. Et on fera un deuxième débat avec l'association des jeunes Kanaks de France qui va nous rejoindre et d'autres collègues qui sont attendus tout à l'heure. Voilà.
Les documentaires, ils durent le premier.
Alors les deux documentaires, c'est 52 minutes. Hein, donc Jean-Jacques de Filis, la passion de la justice. Et le second dure 52 minutes. Un petit mot pour dire qu'il nous a paru important de faire cette soirée concomitante avec Jean-Jacques et le référendum, parce que Jean-Jacques de Filis était le président de notre association, il était le président de l'ASDBK. Donc voilà, il y a un fil qui guide les deux moments de la soirée. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure. Il y a pas mal de défections. on va donner la parole à nos amis et si quelques-uns veulent livrer un témoignage, on leur donnera la parole.
Gilles va peut-être commencer. Comment tu as connu Jean-Jacques? Moi, je l'ai connu après, en fait. J'ai connu à la fin, plutôt à l'époque de Jean-Baptiste. Donc, ce serait intéressant de voir toi quand tu l'as connu.
Je l'ai connu dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler avec la Ligue des droits de l'homme sur des questions internationales. Il s'agissait à ce moment-là. Et donc je l'ai croisé. Je m'occupais d'un groupe de travail, enfin, ça s'appelait Commission à l'époque, Questions internationales avec d'autres. Et donc je l'ai croisé. Je me souviens d'un contact avec lui qui m'a surpris. C'est complètement anecdotique, mais ça me renseignait beaucoup sur son empathie, sa sollicitude, sa bienveillance vis-à-vis des gens avec qui il militait. Il s'agissait d'une des premières manifestations contre les projets de révision du code de la nationalité qui était mis en avant par la droite dans les années 80. On avait à ce moment-là mobilisé, etc. Je me souviens d'un élément très anecdotique. J'avais 25, 30 ans et je l'avais à peine vu. Et donc, je ne pensais pas qu'il m'avait spécialement identifié. Bon, ben, dans une manif, il me dit, je distribuais des tracts, notamment contre la révision du code de nationalité. Il me dit, tu as l'air d'avoir froid, tu dors pas assez, tu milites trop, repose-toi. Voilà, enfin, c'est complètement anecdotique, mais le fait qu'il s'adresse à un jeune militant de cette façon-là, m'avait surpris, parce que bon, c'était Maître de Filis, c'était donc quelqu'un qui, était supposé ne pas porter attention à des jeunes militants autour de lui, etc. Voilà, ça m'avait surpris. Dans la même époque, une autre anecdote, alors ça concerne Jean-Marie Djibaou, qui avait été reçu par le comité central, donc dont Jacques de Filis faisait partie, et d'autres responsables de commissions avaient été invités, c'était mon cas. Et alors, ça m'avait beaucoup frappé, cette réception de Jean-Marie Djibaou au comité central de la Ligue des droits de l'homme, parce qu'il était extrêmement attentif et respectueux, si je peux dire, de cette instance. Il s'exprimait dans une langue extrêmement châtiée, travaillée, soignée, et il nous avait dit cette phrase qu'il avait d'ailleurs prononcée aussi en d'autres circonstances, mais que je trouve très importante. Il dit, parce qu'il rendait hommage en même temps à la Ligue des droits de l'homme, il rendait hommage aux valeurs dont elle se réclamait, dont se réclamait la République, la Révolution, l'histoire des droits de l'homme, etc. Et il s'étendait beaucoup sur la question et il disait nous sommes respectueux donc de la part d'universel qu'apporte l'histoire de la France cet aspect en particulier, et ce que nous aimerions, c'est que les Français soient attentifs aussi à la part d'universel que porte la culture kanak. Voilà. Donc, dans un moment où on va réfléchir à la Ligue de l'homme sur la notion d'universel, d'universel biaisé ou d'universel authentique, cette exigence d'un représentant d'une lutte anticoloniale pour que l'on accepte que d'autres que des Européens puissent porter une part d'universel à la culture de l'humanité, je crois que c'était très important. Puis un troisième petit souvenir sur Jean-Jacques de Félis, c'était dans la fin des années 80 et le début des années 90, quand on avait commencé à se mobiliser, Mehdi, on était partie prenante, autour de la reconnaissance du 17 octobre 61. Alors ça renvoyait à ses engagements de jeunesse au moment de la guerre d'Algérie, et c'est un événement sur lequel il était présent. Et il n'y avait pas beaucoup de militants à l'époque, hein. Il y avait un petit camion, une petite estafette, si je puis dire, avec une petite sono, quelques militants du MRAP, et puis au nom de la mémoire, l'association fondée par Mehdi Laoui, et d'autres. Et il était là, Jean-Jacques. Il était là, je me souviens qu'il était présent sur Pont-Saint-Michel, passant sur, bavardant sur l'île de la Cité, vous aviez fait une expo de caricatures, etc., à la conciergerie. Voilà. Donc, c'est des moments où il était présent comme un militant dans des lieux où les gens n'étaient pas très nombreux, quoi, avec toujours une attention, une sollicitude pour tout le monde et un contact très humain. Quoi, voilà. C'était quelqu'un d'extrêmement humain c'est ça que je garde en mémoire. Bon, Sylvie Bretel, elle a travaillé avec Jean-Jacques de Félis, hein. Elle a été collaboratrice comme avocate de son cabinet et je suis sûr qu'elle a des choses à nous dire.
Oui, j'aurais pas mal de choses. Peut-être que Thierry, j'ai vu ta photo tout à l'heure, là, à un moment, et puisque Michel Dubiana, il n'est pas là, peut-être tu pourrais le remplacer utilement. Voilà, au pied levé, hein, parce que même Thierry, il n'était pas au courant. C'est vraiment avec plaisir qu'on t'accueille.
Oui. Thierry Berthoud, alors, mon interaction avec Jean-Jacques de Félis, ça a été autour de la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais évoquer, c'est la subtilité de la pensée de Jean-Jacques de Félis, telle qu'elle s'est manifestée au moment de la création de l'AISJPK, l'Association d'information et soutien aux droits du peuple kanak, que Mehdi Laoui a évoqué tout à l'heure. Cette création, elle s'est faite dans le bureau de Jean-Jacques de Félis. Nous étions trois ou quatre, selon les réunions. Il y avait donc Jean-Jacques, il y avait Michel Dubiana, et M. Bess, qui est décédé depuis, et moi-même. Et la discussion se portait, sur qu'est-ce qu'on allait faire, c'était assez clair, c'était quoi l'origine. L'origine, c'était une demande très explicite de Jean-Marie Djibaou et du FLNKS de développer un soutien en France, puisqu'ils envisageaient une action politique qui allait monter. Et la question s'est posée, comment on va positionner cette association? Et il y avait, dans les quatre, disons qu'on était, il y avait deux personnes qui disaient, bon, il faut être clair, l'objectif c'est l'indépendance, et il faut qu'on ait une association qui évoque l'indépendance. Et là, nous avons vu toute la subtilité de la pensée de Jean-Jacques de Félix qui a dit non, c'est les droits qu'on va mettre en avant. Et là, ça a été évoqué dans le film, on reconnaît l'avocat. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est des discussions en tout petit comité, c'est l'articulation qu'il faisait entre le droit et l'action politique. Le droit étant un moyen de l'action politique, mais l'action politique étant aussi un objectif de renforcer le droit, et avec des champs distincts, se superposant dans toute une série de domaines. Mais là, moi, j'ai été frappé, bon, j'étais jeune, hein, j'avais 30 ans, par cette pensée qui faisait une articulation que je n'avais pas perçue d'une manière aussi subtile et qui s'inscrivait dans l'action. À savoir qu'on faisait cette distinction entre qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que l'action politique, mais dans un but de faire avancer les choses et de faire avancer, je dirais un peu pas en parallèle, parce que ça se croisait tout le temps, mais de faire avancer et le droit et l'action politique. Et c'est ça qui m'a frappé, et ça a continué au fil des années. Bon, alors après ça, la ISDPK a grossi, a eu beaucoup plus de gens, il s'est passé beaucoup plus de choses, mais dans ce tout petit noyau, au moment où les choses se cristallisent, il a eu un rôle central, et il a eu un rôle central de positionner le soutien comme étant un soutien au droit, et non pas un soutien explicitement dans le titre, en tout cas, à l'action indépendantiste, disant celle-là, c'est le rôle du mouvement politique kanak, c'est pas notre rôle en France. Et c'est un peu ça que je voulais évoquer, qu'on a bien vu dans le film, où vraiment il était du côté du droit. Il interagissait en permanence avec la politique, mais lui, il était du côté du droit, et je crois qu'en l'occurrence, le positionnement qu'il a contribué à faire émerger était celui qui s'imposait.
Merci. Mehdi.
Oui, d'abord, je suis heureux de te voir, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu, donc un des fondateurs de l'association, qu'on te voit dans un meeting en janvier 85, quelques jours après l'assassinat d'Eloi Bachereau, hein, à côté de Jean-Marie Tjibaou et de Jean-Jacques. Jean-Jacques, il a gardé dans la mémoire des Kanaks, j'étais encore en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois, au mois de mai, pour le film que vous allez voir après, il a gardé une empreinte, il a gardé une présence très 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 forte. J'étais à OVA donc au mois de mai, et tous les détenus, les anciens détenus avec qui j'ai discuté évoquaient toujours Jean-Jacques de Félix. Pas seulement en tant que défenseur, mais en tant qu'humain. Une personne qui était à l'écoute, une personne qui était présente, pas seulement dans un dossier juridique, mais dans une présence humaine très très forte. Jean-Jacques, dans l'anecdote, il ne s'est pas seulement contenté de défendre les gens d'ouvert, hein. Il a aussi défendu les gens qui n'ont pas fait partie de l'amnistie. J'ai en mémoire un jeune Kanak qui s'appelait Camille Amabili, qui ne faisait pas partie de l'amnistie après l'affaire d'Ouvéa, et qui, Jean-Jacques, s'est attelé à essayer, et y a réussi, à faire sortir ce Camille Amabili, qui était soi-disant pas un politique. L'histoire de ce jeune, il avait tué un gendarme. Bon. Un gendarme qui rentrait dans la tribu, qui faisait ce qu'il voulait dans la tribu, il avait tué un gendarme, et il n'était pas dans les accords Matignon ou Dino, qui avaient vu les militants kanaks sortir de prison. Et il l'a défendu jusqu'au bout, et on a réussi à le faire sortir, il a réussi à le faire sortir, et pour la petite histoire, Je ne sais pas si Jean-Jacques le savait, mais moi je ne savais pas à l'époque, c'est que ce jeune Camille Amabili, qui avait été en prison, qui était à Poissy, à prison de Poissy, accusé d'avoir tué un gendarme, en réalité c'est pas lui qui avait tué le gendarme, c'était son oncle, mais il avait pris la place de son oncle, et voilà, il n'avait jamais rien dit. Et je me demande, 20 ans plus tard, parce qu'il me disait, non, il faut, bah, si Jean-Jacques était au courant de la vraie histoire, je pense qu'il devait le savoir. Voilà. Nous, on a été très, très touchés et très fiers, et je dirais un dernier mot, d'avoir comme président Jean-Jacques Defélis, qui, malgré les turbulences politiques, gardait le cap et gardait un calme. Voilà. Par rapport à des événements très, très tragiques. Et l'image que j'ai encore, c'est au milieu de l'été, lorsqu'on a appris son décès, et ces centaines de personnes qui étaient au Père-Lachaise, des Colombiens, des Italiens, des Kurdes, des Algériens, voilà, le tout monde, comme dit, voilà. Et c'était ça, Jean-Jacques, il n'y avait pas de frontières, et il y avait cette parole qu'il a su porter, qu'il a su... amplifié, et tous les gens qui étaient là ce mois d'août là au cimetière du Père-Lachaise, qui parlaient 30 langues différentes, en étaient le symbole. Voilà.
Merci. Alors moi, je vais juste dire quelques mots, parce que moi, en fait, j'arrive après la séquence de Jean-Baptiste Hérault, puisque moi, j'étais sa collaboratrice de 97 à 2004. Puis après, ça a été Suzanne Bouissot qui est là, qui m'a succédé, et puis après, il est décédé. Donc, moi, j'ai une image de Jean-Jacques un petit peu différente de vous, qui n'avez que le côté militant, puisque j'étais à la fois au cœur de l'intimité, entre guillemets, puisque le cabinet, c'était à la fois leur logement et le cabinet professionnel, ce qui était parfois pas très simple. Il fallait traverser le salon, arroser les plantes, donner à manger au chat, la tourterelle, voilà. Il y a Irène aussi, hein, Terrelle, qui est très importante. L'un et l'autre, c'était un duo fabuleux. Donc la vie familiale, la vie professionnelle, et c'était même pas une profession, c'est une vocation. C'était un avocat, c'était pas une profession, c'était pas un métier, c'était une vocation. Et puis sa vie militante sur lui. Après, moi, la première fois que je l'ai vu, en fait, c'était pour la Maison des Ensembles. Dans le 12e, il y avait eu, on était plein d'associations, j'étais présidente depuis 2 mois, et on a été occupé un local, et on m'a dit, bah, toi t'es de la Ligue des droits de l'homme, il doit y avoir un avocat, et on m'a dit, bah, il y a Defélis. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vu Jean-Jacques pour la première fois à l'audience des référés sur un jugement d'expulsion. Et puis après, le hasard a fait que je suis devenue avocate, il m'a fallu que je trouve un maître de stage, et le hasard a fait que j'ai pris rendez-vous chez Jean-Jacques, chez Irène, et puis... Et puis c'était parti. Et voilà, donc pour 10 ans, 7 ans de collaboration, avec effectivement quelqu'un qui respectait les clients, c'était le respect du client, le respect de l'homme qui venait. Alors il emmenait au cabinet, il emmenait de partout. Hein. Il y avait des gens qui étaient fracassés, il y avait des gens qui étaient un petit peu fragiles psychologiquement. Donc des fois on avait des dossiers qui disaient, bah, ça tu vois ce que tu peux faire. Hein, dans la revue qui est à l'entrée, vous voyez les pages de notes de Jean-Jacques, je crois que c'est la page 21. C'est une espèce de schéma qu'il faisait et qui était à la fois compréhensible et obscur. Et c'était Jean-Jacques, c'était assez compréhensible. Il y a aussi beaucoup de clients qui venaient parce qu'ils avaient soit leur oncle, leur frère, ils venaient parce qu'effectivement on leur avait dit, bah, va chez Defélis, lui il va pouvoir t'aider. Il les écoutait tout l'après-midi, il prenait ses rendez-vous, et puis dans un grand respect, alors des fois effectivement on ne pouvait pas faire grand-chose et des fois on pouvait faire, et c'était important. Il y avait aussi tout le dossier, la partie réfugiés politiques, il y avait les Italiens, moi quand j'étais là, et Suzanne aussi, c'était Battisti, c'était Marina Petrella. Je crois que l'une de ses dernières interventions publiques, c'était pour Marina Petrella. On a une photo où il y a Jacquard, je crois, il y a Stéphane Hessel, il y a lui, il y a Irène. Jusqu'au bout, il s'est vraiment battu à fond sur ces dossiers-là. Alors moi, il m'a transmis les Kurdes. Et avec les Kurdes, je le dis un petit peu à tout le monde, mais il avait, je ne sais pas où il avait dégoté, on ne l'a pas retrouvé après son décès, c'est qu'il y avait une carte du traité de Sèvres de 1920 avec le Kurdistan. Donc quand on... Kurdistan, PKK, donc association, enfin organisation considérée comme terroriste. Donc Jean-Jacques, ça lui faisait un grand plaisir. Donc il prenait sa robe qui était effectivement très importante et il accrochait la Légion d'honneur, parce qu'il ne la mettait pas tout le temps, mais là sur les procès terroristes, Kurk, il accrochait sa Légion d'honneur. Et puis on arrivait avec la carte qui était immense, donc moi je la prenais un bout, lui d'un bout, et on la collait sur le bureau des magistrats. Donc les magistrats, on recouvrait leur dossier, donc ils ne savaient pas trop s'ils avaient le droit de toucher, pas toucher. On se barrait et puis il continue à plaider. Donc, voilà, c'était... Et la dernière fois que j'ai plaidé avec lui, c'était en février-mars 2008. Et on a refait le coup de la carte. Voilà. Donc j'ai refait, mais je le refais avec une carte qui est plus petite. C'est pas la même, elle n'est pas encollée. Et... Donc si vous avez une vieille carte encollée de 1920, ça m'intéresse. Enfin voilà, c'est... Non, c'était très... Et c'est un humaniste. C'était... Moi, c'était un maître de... C'était mon maître de stage. C'était mon maître. Hein, j'ai deux maîtres. J'ai Jean-Jacques de Félis et il y a aussi Henri Leclerc, mais c'est mon maître. Je n'ai jamais réussi à le tutoyer. Ça a étonné un petit peu tout le monde. Autant Irène, je l'ai tutoyé tout de suite. Autant Irène et Jean-Jacques, en audience, c'était fabuleux. Sur les Basques, on les a vus, sur les Italiens. Donc il y a Irène, c'était le feu. Elle avait un marteau, un burin, et elle tape. Et Jean-Jacques, Jean-Baptiste Hérault, il fait ce geste-là. Jean-Jacques, il emballait les choses, il y a sa voix, je ne sais pas comment il faisait, sa voix, elle portait très très loin et elle rebondissait dans toute la salle d'audience. Et puis, il ligotait, il garrottait les magistrats. Et les deux à voir, c'était incroyable. Et avec une volonté, une force, donc sur certains dossiers, ils y passaient des nuits. Je me rappelle d'une autopsie où Irène, elle appelait en disant « Mais on a vu à 3h du matin avec Jean-Jacques que ça ne peut pas être comme ça, mais ça peut être que comme ça, qu'il a pu l'étrangler ou pas. » Enfin, ils se mettaient à fond sur certains dossiers. C'était un dossier qui avait été transmis, voilà, une injustice. Ils s'étaient quand même en assise. Enfin, c'était des moments à vivre au cœur de ces dossiers-là. C'était assez incroyable. Je ne sais pas si Suzanne a d'autres choses à dire. Je l'avais préparé plein de trucs, mais elle dit qu'elle ne veut pas parler. Donc voilà. C'était un humanisme et incroyable. Et donc je suis un petit peu émue parce que je n'ai même pas osé, depuis que tu m'avais envoyé le film, je n'avais pas osé le voir en entier. Donc j'ai vu des petits bouts. Et merci pour ce film, en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un... Quelqu'un veut parler, s'exprimer, voir, dire. Alors, dans la section du 12e, c'est vrai qu'on en a profité, hein, j'étais sa collaboratrice, donc on l'avait invité 2-3 fois, et ça a toujours été des moments très très forts. Donc il arrivait tout le temps en avance aux réunions, donc j'ai un souvenir, effectivement, dans la salle des mairies du 12e, il était là avec les deux militants qui étaient là à l'heure, eux, et du coup, effectivement, on est toujours... très émue, et d'ailleurs je suis contente de voir qu'il y a pas mal de gens du 12e parce que il a été très important pour nous tous, quoi. Donc on essaye de transmettre. Voilà, merci à vous d'être là en tout cas.
Mais il était militant du 5e, il habitait dans le 5e et il était membre de la section 5e, 13e. Alors il y a peut-être des militants de cette section-là qui ont quelques souvenirs à évoquer. Jean-Jacques n'est peut-être pas très assidu aux réunions de section. Hein. Moi, ce qui me frappe, allez-y, hein, si vous voulez, Christine ou Jean-Marc.
Ce n'était pas de militants qu'on voyait régulièrement, mais on a fait une fois un débat public, en fait, avec les gens de l'ACAT. C'est eux qui nous avaient demandé, les gens de l'ACAT, donc l'association contre la torture et la peine de mort, les chrétiens contre la torture du 5e, qui nous avaient sollicité pour inviter Jean-Jacques de Félis pour un débat dans le 5e sur donc la commission de déontologie de la sécurité. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. C'était très intéressant, passionnant.
Et ça peut être l'occasion de souligner à quel point il y avait une dimension morale dans son engagement. Hein. Vous l'avez rappelé, il y avait à la fois une dimension politique et une dimension morale. Et Daniel Lechac le dit d'ailleurs dans le film. Hein. Elle le dit qu'il y a une part de raisonnement moral chez lui Je me souviens aussi qu'il était très fier, il l'évoque un peu à un moment dans le film aussi, de ses ancêtres, et notamment de ce pasteur protestant qui, sous Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet, avait combattu l'esclavage, donc pour des raisons d'humanisme qui, en l'occurrence, se fondait sur une certaine conception de l'humanité dont faisaient partie, y compris ses esclaves. Donc il avait profondément cette conception humaniste. Il voyait les hommes au-delà des étiquettes que les systèmes politiques leur appliquent, et notamment le système colonial, bien entendu. Il voyait chez les Kanaks, il voyait en eux des hommes, quoi, voilà. Des hommes comme nous, comme lui. Et donc c'est ce qui fondait un peu son engagement. Et souvent, on a une approche uniquement politique qui a certaines limites dans certaines situations où on a tendance à justifier, à se perdre dans des raisonnements géopolitiques, alors que ceux qui, et alors là on revient à la guerre d'Algérie, la torture et tout ça, ceux qui se sont engagés au moment de la guerre d'Algérie, eh ben, étaient bien souvent des gens qui avaient avant tout une sorte de refus moral, humaniste, d'un certain nombre de pratiques, alors que d'autres s'amplificotaient dans des raisonnements, faut-il privilégier ci ou ça, etc. Donc voilà. Et c'est dans les combats pour les droits de l'homme, il y a forcément ça. Et là où on ne voit que l'échiquier politique, les appareils, les partis, les syndicats, etc., ben on perd quelque chose, quoi. Il y a de l'humain. Oui, dans le fond. Vous approchez.
Je ne suis pas de la Ligue des droits de l'homme. Je connaissais
ben,
pas.
Approchez-vous parce qu'on vous entendra mieux.
Bon, c'était juste pour dire, je connaissais pas Jean-Jacques en fait. C'est grâce à Mehdi qui a fait son mailing que je suis venue, donc je suis très contente d'avoir découvert ce qu'il a fait et surtout tout ce qu'il a effectivement défendu. Je suis juste un peu surprise effectivement par certaines interventions d'interlocuteurs qui parlent de lui en disant que finalement c'était un grand pacifiste et ça, c'était presque un paradoxe pour eux de le voir défendre des causes pour des gens qui ont été violents, mais violents en défendant des choses qui étaient justes, d'après lui. Enfin, en tous les cas, c'est lui qui le ressentait comme ça. Et moi, je trouve que, je me sens totalement en accord avec lui. Enfin, moi, je me sens pacifiste, mais en même temps, je suis prête à défendre des causes de gens qui vont agir de manière violente, mais contre une autre violence aussi, une violence d'État, une violence de plein de choses. Et je suis étonnée, donc, il y a eu plusieurs fois des personnes qui ont dit ça, et je trouve que être pacifiste ne veut pas dire... je comprends bien sa position, en tous les cas. Et merci, Mehdi, pour ce film.
En fait, c'est aussi ce qu'on nous dit à nous, avocats. Mais comment vous pouvez défendre ? Mais on est avocat et on défend les droits, comme tu l'as bien dit. Mais voilà, c'était ça.
Peut-être un autre trait de caractère qui est passé bien dans le film, mais sur lequel il faut insister, c'est l'incroyable capacité d'écoute qu'avait Jean-Jacques de Félis. Dans nombre de réunions, il reste extrêmement silencieux. Il ne dit rien. Très humble. Et pas forcément à chaque fois, mais de temps en temps, une intervention qui va recadrer un débat, qui va apporter un angle qui avait été oublié, qui va permettre d'avancer toujours. Et c'est ça qui est frappant, ce mélange, ce silence, cette capacité d'écoute, et d'un seul coup, pouf, il va faire en sorte que, rarement en contradiction, mais faire avancer tout le monde. Et effectivement, avec le geste, il embarque. Et ça, c'est une force incroyable d'avoir cette capacité à rester silencieux, à comprendre tout ce qu'ils disent, et la diversité des points de vue, et la diversité des opinions, et à un moment donné, rajouter ce qui manquait, sans jamais se mettre en avant personnellement, parce qu'effectivement, alors qu'il aurait pu le faire, hein, il avait, plus il a avancé, plus il avait cette aura, il est resté en permanence, enfin, comme moi quand je l'ai connu sur les dossiers de Nouvelle-Calédonie, une extrême humilité. Pour le mettre à une tribune, il fallait le pousser à chaque fois. Hein. Autant pour aller dans un tribunal, il y allait volontiers, autant sur une tribune un peu différente, c'était à chaque fois extrêmement difficile d'obtenir qu'il accepte de le faire.
Alors c'est vrai que c'était compliqué, mais en même temps ça le faisait marrer, parce que sur les Kurdes, dans le local des Kurdes, il y avait Öcalan, machin, tout ça, et il me montrait sans cesse une photo sur laquelle il était, à une conférence comme aujourd'hui, et en me disant « Regarde, c'est terroriste, et c'est moi », et ça le faisait beaucoup rigoler. Et je crois que ça datait aussi de ces années-là, où effectivement, dès le début, il était dans cette position-là.
Et à l'époque de la guerre d'Algérie, il y avait plusieurs collectifs d'avocats, il y en avait trois. Et lui, il était membre du collectif d'avocats, où il y avait notamment Jacques Vergès, et où, qui était étiqueté comme collectif FLN. Voilà. En fait, lui-même ne considère pas qu'il était inféodé à l'époque à telle ou telle consigne de défense. Il faisait ce qu'il voulait, et il avait le souci de ses clients et de ne pas les amener à n'importe quel jugement. Mais il faisait partie de ce collectif-là et il en était fier. C'était un choix.
Ils avaient été très peu de temps avant sa mort, je ne sais plus combien d'années, un ou deux ans, ils avaient été reçus en Algérie, ils avaient été honorés et il en était effectivement très fier. Et puis, je ne sais plus si Nicole. Enfin, il va garder encore des liens avec Nicole Rhin. Et c'était très important pour lui, il en était aussi assez fier.
Alors sur justement son retour, enfin sa venue en Algérie où il a été honoré par le barreau d'Alger qui lui a donné une distinction, etc., il nous racontait que, alors évidemment, il en était très, très satisfait, très heureux, mais il nous disait après, j'ai eu la surprise de trouver parmi mes anciens clients, ça il ne le dit pas dans ton film, certains hommes qui étaient devenus des tortionnaires.
Ça a été enregistré. Pour la petite histoire, un de ses patrons, c'était Ousnik. Voilà, c'était Mourad Ousnik. Et Mourad Ousnik, il va le voir, parce qu'à un moment, Mourad Ousnik est détenu, hein, soupçonné d'être tête du FLN et autres. On n'emprisonne pas les avocats français, mais Mourad Ousnik était un Français musulman d'Algérie. Donc il a été détenu au Larzac. Et quand les gens du Larzac, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, lui disent « Ah, mais vous ne connaissez pas ?» Jean-Jacques dit « Si, je suis déjà venu sur le Larzac visiter mon patron qui était en prison dans le camp du Larzac. Alors, le fameux camp du Larzac. » Bon, ça, c'était la petite histoire. Quoi.
Je crois que ça l'avait vraiment marqué d'être collaborateur et d'aller visiter son patron en détention, et lui il faisait très attention aux visites en détention, hein, ça a été bien marqué effectivement, il allait souvent voir les clients avec cet âge, et ça l'a beaucoup marqué ce renversement, et que Mourad Ousnik soit détenu, ça l'a dû vraiment le choquer, il devait être jeune en plus, ce qui l'a prêté serment très tôt, hein. Je crois que c'était vers 22 ans ou je sais plus.
C'est l'occasion de rappeler qu'il y a un avocat inscrit au barreau de Paris qui a été assassiné sur ordre du Premier ministre, avec un feu vert du Premier ministre Michel Debré, dans le 3e arrondissement, enfin,
deuxième.
Le 4e.
Dans le 2e.
Dans le 2e, merci. Merci, dans le 2e arrondissement, dont le maire, oui, dont nous, où nous sommes, et dont le maire souhaiterait, ben peut-être que Robert pourrait nous en dire plus.
Vous voulez juste venir, Robert.
Honorer la mémoire d'une plaque.
Parce que ça l'avait beaucoup marqué. Hein.
Maître Oulda Oudia, voilà, assassiné donc par les services français en plein Paris, sortant de son cabinet d'avocat. Et voilà, c'est quand même un des crimes coloniaux oubliés.
Oui, assassiné un avocat français en plein cœur de Paris parce qu'il va défendre des étudiants proches du FLN qui avaient été torturés par la police, c'est quand même un moment pénible de notre histoire. Et donc ça va faire 60 ans dans 6 mois, hein, en mai 2019, et la mairie du 2e arrondissement envisageait de déposer une plaque sur la façade de l'immeuble où cet avocat avait son bureau. Il a été assassiné là en sortant de son bureau. Et il semble que l'affaire piétine par l'opposition d'un historien qui habite dans cet immeuble et qui n'est pas d'accord qu'on rende hommage à cet avocat. Et donc, nous, la section de la Ligue des droits de l'homme Paris-Centre, on a proposé que poser une plaque, c'est bien, mais ce qui serait mieux, c'est de faire revivre cette période, rendre mémoire en organisant une conférence ici pour parler de cet événement, du contexte, comment le pouvoir politique s'est mouillé. Hein, tu dis le Premier ministre, il y en a qui disent que De Gaulle avait couvert. Il y avait d'autres avocats, dont Vergès, qui était sur la liste aussi pour être assassiné. Il avait reçu des menaces de mort. Et donc, commémorer le contexte, hein, parce que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un temps qu'ils n'arrivent pas à imaginer. Mais aussi pour poser la question de qui contrôle les services secrets dans notre pays. Et aujourd'hui, est-ce que des actes comme ça pourraient se produire ? Est-ce que notre démocratie a fait des progrès ? Je n'en suis pas sûr.
C'est sûr, y compris le président précédent a livré un certain nombre de réflexions dans un ouvrage avec d'interviews accordées à des journalistes au sujet de ces opérations homo, là, dites dans le code des services secrets, c'est-à-dire des assassinats que le pouvoir politique est amené à valider. Voilà. Et il raconte qu'il a donné les feux verts pour tel ou tel assassinat. Et donc, est-ce que cette pratique est suffisamment encadrée, mise en débat, fait l'objet de suffisamment de discussions. Voilà, c'est vraiment une question qu'il faut que nous continuions à soulever.
Quelqu'un d'autre ? Intervention, témoignage ?
Alors, notre projectionniste, il a été acheté des clopes. On attend. Ah, je balance tous. On attend le retour du projectionniste avec ses clopes. Et on va passer au deuxième film qui s'intitule Kanaki, Nouvelle-Calédonie, la métamorphose du caillou, et qui a été fait il y a quelques mois seulement. Voilà, c'est le premier volet d'une série. Et on fera un deuxième débat si vous êtes patient et si vous êtes passionné par cette histoire. Thierry, tu restes avec nous pour le deuxième débat. Fondateur de notre association, tu ne vas pas partir comme ça.
J'écouterai avec intérêt, mais j'ai plus beaucoup de contacts avec la Nouvelle-Calédonie. Mon trajet personnel et professionnel m'a emmené à des univers complètement différents, donc je suis bien loin de ça, mais toujours absolument intéressé.
On va lancer. Oui, il y aura l'association des jeunes Kanaks qui venaient. On va lancer le deuxième film et après on refaire un débat avec d'autres personnes présentes dans la salle. Mais pas de projection.
Merci à vous.
Donc l'idée, c'est d'avoir un petit échange sur l'image que donne ce film de la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie Kanaki. Voilà, je passe la parole peut-être.
Oui, bonsoir à tous et toutes. Je suis Isabelle Leblic, je suis anthropologue. CNRS et J'ai travaillé durant 30 ans en Nouvelle-Calédonie, enfin sur la Nouvelle-Calédonie, parce que je ne faisais que des missions. Et la première fois qu'on a débarqué, Mehdi et moi, en Nouvelle-Calédonie, c'était le 13 juillet 1983, donc la veille de la fête nationale. Et donc on a tout de suite été frappés par le contexte colonial de la ville de Nouméa de l'époque, avec les défilés aux monuments aux morts sur lesquels il n'y avait pas les noms des morts Kanak, mais il y avait juste des nombres par commune. Et de l'autre côté, des Kanak indépendantistes qui manifestaient pour le droit à l'indépendance et pour l'égalité, la reconnaissance de l'identité Kanak. Et donc, quand on arrive en Calédonie comme ça, si on n'est pas anticolonialiste, on le devient forcément, parce que de toute façon, c'est tellement violent d'arriver dans ce territoire qui, à l'époque, était vraiment très colonial, que... Quand Jean-Jacques parlait de ce premier tract qui a fait l'emprisonnement des militants Kanak, qui avait été rédigé donc en français, mais d'abord en Handéou, qui est la langue d'une des îles Loyauté, le Bifou, et en Ngoné, qui est une autre île Loyauté Marée, donc avec Ouvéa, ça fait les trois grandes îles Loyauté, qu'ils ont été emprisonnés pour ce tract qui revendiquait simplement justement... le droit à l'égalité, quand il expliquait que c'est parce que quand ils étaient dans les magasins, ils ne pouvaient pas être servis parce que tous les blancs étaient servis d'abord. Moi, en 85, après les événements de novembre 84, je me suis retrouvé dans des commerces à Nouméa avec des amis Kanak à ne jamais être servis parce qu'on faisait passer tous les blancs devant parce qu'on était avec des Kanak. Et donc, quand j'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais qu'en 85, c'était encore comme ça. Alors bien sûr, maintenant, les choses ont changé, et quand je repense aussi à la phrase de Jean-Jacques dans le film, dans le premier film, qui dit que de toute façon, ils auront leur liberté, voilà, c'est cette liberté dont il est question par le vote de dimanche prochain. Et Jean-Jacques était optimiste, voilà, je ne sais pas si on peut l'être autant que lui, mais bon, on verra bien. Il faut garder l'espoir de toute façon. Et ce qui est sûr, c'est que, on le voit bien dans le film, le deuxième film, là, de Mehdi, tous les témoignages concordent pour dire que, certes, il y a eu un certain rééquilibrage de fait, mais que ce rééquilibrage, il ne va pas jusqu'au bout. Il ne va pas jusqu'au bout, qu'il y a toujours beaucoup d'inégalités en Nouvelle-Calédonie, et que je pense qu'on ne pourra arriver à réduire ces inégalités que dans un contexte de décolonisation réelle. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui on décolonise dans la République, mais c'est une phrase qui n'a pas de sens. On ne peut pas décoloniser dans la République, hein, française. Je veux dire, soit on est en colonie, soit on est en pays indépendant, mais on peut pas faire les deux à la fois. C'est complètement, à mon sens, enfin, complètement aberrant. Donc voilà, aujourd'hui on est dans une situation où certes, il y a plus de Kanak que... en 89, qui arrivent aux études universitaires, mais il y en a encore très peu par rapport à la population Kanak, qui est à peu près à 40% de la population du territoire de Nouvelle-Calédonie actuellement, et il n'y a pas 40% de Kanak dans les études, même dans les bacheliers, ni dans ceux qui font des études universitaires. Et donc on est toujours, le rééquilibrage, il passe d'abord, à mon sens, par l'éducation et par l'accès à tous aux mêmes chances pour une scolarité, pour une éducation vraiment... Parce que c'est ça qui fait l'avenir d'un pays, qui fait l'avenir, qui va pouvoir construire le pays. C'est-à-dire que tout le monde puisse avoir les mêmes chances dans l'éducation. Et aujourd'hui, si on prend juste cette donnée-là, on n'y est pas encore. Ensuite, quand dans le film, Sonia Baquès, qui nous dit, les Républicains, que la Calédonie n'a pas les moyens de son indépendance, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'État français envoie environ 155 milliards de transferts financiers à la Nouvelle-Calédonie. Et 125 milliards reviennent en France. C'est-à-dire qu'il y a en gros 30 milliards qui servent à la Calédonie, à faire quelque chose en Calédonie. Donc ces transferts sont en gros pour payer les fonctionnaires métropolitains qui sont avec un salaire indexé, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire bien plus élevé que les salaires métropolitains, qui font aussi que c'est la cherté de la vie en Nouvelle-Calédonie, du fait que quand un fonctionnaire métropolitain et tous les fonctionnaires territoriaux sont indexés aussi, gagne 1,8 plus qu'en France. Donc forcément, les loyers sont chers, la nourriture est chère, la main-d'œuvre est chère, puisque tout ça se multiplie, et que donc sans décolonisation, il ne peut pas y avoir des indexations des salaires, et donc remise à niveau d'une économie sur des bases correctes. Après, l'épouvantail du Vanuatu qui est brandi par les anti-indépendantistes, le Vanuatu, les Nouvelles-Hébrides, quand elles sont devenues indépendantes pour devenir Vanuatu, n'avaient pas les richesses qu'a la Calédonie aujourd'hui. Bon, il y a le nickel, certes, mais il y a aussi d'autres richesses. Et donc, la situation n'est pas comparable. Et donc, les arguments sont un peu faussés. Alors, c'est vraiment la peur de l'indépendance. Voilà. Donc, je pense que le film de midi est bien parce qu'il est très, il donne la parole à tout le monde et on se rend compte vraiment que, malheureusement, après 30 années de construction de ce destin commun, ben les choses restent quand même très tranchées et que moi je dis toujours, on est sur deux lignes parallèles qui, par définition, ne se rencontrent pas. C'est-à-dire qu'au moment, au pied de l'échéance du référendum, les anti-indépendantistes restent foncièrement, viscéralement anti-indépendantistes et ne font pas de pas vers les Kanaks, et que depuis toujours, ce sont les Kanaks qui tendent la main aux anti-indépendantistes pour avancer. Ils ont accepté que le corps électoral soit partagé avec tous les gens qui avaient une certaine ancienneté sur le territoire. Ils font des avancées tout le temps, et de l'autre côté, on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui se passe. Donc c'est un peu, moi je trouve ça un peu dommage, quoi.
Et du coup, ce corps électoral, enfin, la composition du corps électoral, rend les Kanaks minoritaires quand même.
Oui, non, mais il n'y a pas que le corps électoral qui rend les Kanaks minoritaires, parce qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Mais non, mais il y a pas. Mais le problème, c'est que le pari des Kanaks, c'est pas de. Ils ne font pas l'indépendance à eux tout seuls. Ils font l'indépendance en essayant de convaincre ceux qui sont en face que l'indépendance, elle est possible. Donc c'est plus une question de majorité. Ils sont minoritaires depuis. De toute façon, depuis les années 60, ils sont minoritaires. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Donc.
Non, je parle assez fort, ça devrait pouvoir être entendu. Oui, j'ai apprécié le film, mais je ne suis pas tout à fait d'accord en disant qu'il donne le point de vue de toutes les tendances. Il y a parmi les Kanaks certains qui considèrent que, vu les conditions, le référendum n'est pas valable, n'est pas... permettra pas véritablement de faire avancer les choses, et qui ont décidé de boycotter. Ils ont peut-être tort. Je ne prends pas position pour le boycott du référendum. Enfin, à quel titre je pourrais le faire, moi, qui n'ai jamais mis les pieds là-bas, même si ça a failli m'arriver, puisque je travaillais dans le nickel à un moment donné. Mais je crois qu'il aurait fallu donner la parole à ceux qui pensent que un véritable référendum dans le contexte actuel nécessiterait des aménagements pour empêcher que les gens qui agitent le spectre de la peur de l'indépendance pour un pays qui n'est pas équipé pour ça, qui n'est pas en mesure d'assumer toutes ces charges, que ces conditions-là sont faussées, sont biaisées. Et donc, voilà, je pense que ça aurait été intéressant d'entendre ce point de vue-là. Même si on a entendu plein de choses très intéressantes et qui mériterait d'être beaucoup mieux connu dans ce pays à quelques jours de ce référendum.
Mais sans parler à la place de midi, le film a été tourné avant que les partis indépendants, que les Kanaks qui se sont prononcés pour le boycott se prononcent pour le boycott. Donc le film a été tourné avant. Donc,
voilà. Il a été tourné au mois de mai, il a été monté au mois de juin. Et l'USTK et le Parti travailliste, c'est à partir du mois de juillet. C'est à partir du mois de juillet qui convoque leur organisation pour la non-participation au 4 novembre. Mais il est bien évident que dans le prochain film, parce qu'il va y avoir un prochain film qui suit, l'enjeu c'est de donner à comprendre la complexité et donc mettre tous les points de vue qui nous permettent de comprendre cette complexité. Il y a une division des partis anti-indépendantistes et de droite, qui est une division des partis majoritairement kanak. Bon, voilà, il faut le dire, il faut le donner à comprendre. Donc ça sera dans le prochain film. Mais quand j'ai fait celui-ci, il n'y avait pas cet appel à la non-participation qui intervient en juillet, en septembre.
Merci. Il y a une division donc des partis kanak, oui. on passe la parole. Mais c'est une question que je pose à Mehdi, Isabelle, qui connaissent mieux la situation que je ne la connais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une division dans, disons, les forces politiques issues de ce qu'on appelait les caldoches, quand tu dis peut-être appeler les caldoches, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prennent davantage acte la perspective de l'indépendance à la sud-africaine, si je puis dire, parmi ces forces politiques issues du monde caldoche? Isabelle.
Et en Calédonie de façon plus récente que moi.
La figure tutélaire de Jacques Lafleur, disparu, a fait qu'il y a eu un éclatement. Hein, avant, c'était très bipolaire, indépendantiste, anti-indépendantiste, porté d'un côté par Jacques Lafleur, de l'autre côté par Chibaou et ses successeurs. Là, il y a au moins... je ne parle pas de Bianca Hénin qui est Front National, mais il y a quatre tendances qui sont représentées dans la droite, hein, dans la droite canadienne. La tendance qui rêve d'un processus à la rhodésienne, pas à la sud-africaine, à la rhodésienne, c'est Gomez qui parle, qui est le parti le plus important, celui qui représente le plus, et qui est dans cette logique de maintien de la présence française et des intérêts économiques, parce qu'on dit anti-indépendantiste, l'anti-indépendantisme, c'est pas une posture morale ou philosophique. Derrière ça, c'est le maintien des fortunes et les maintiens du pouvoir économique qui les tiennent encore. Voilà. Et Gomez est le fer de lance de cette tendance qui s'accommoderait d'une indépendance dite à la rhodésienne. Plus que les Kanaks sont minoritaires et que on va le voir le 4 novembre, ça va être les partis anti-indépendantistes. C'est eux qui votent les recettes du pays. C'est eux qui votent les répartitions. C'est eux qui ont tous les pouvoirs. Bon, ils n'ont pas l'armée, la justice, l'enseignement supérieur et l'audiovisuel, mais tout le reste, ils les ont. Donc ils pourraient être séduits par une indépendance qu'ils dirigeraient eux. Voilà. C'était une chose. Et par rapport à Sonia Baquès, qui représente le côté le plus ancien du colonialisme, alors qu'elle est là depuis que deux générations, mais elle parle comme il y a des gens de 30 ans, des fois, elle fait des lapsus et autres. Moi, dans le film, j'ai pas voulu la piéger, parce que c'est pas ça le but, c'est pas de... voilà. Mais ce sont des gens qui considèrent que leur légitimité coloniale doit perdurer quoi qu'il arrive. Voilà. Du point de vue du 4 novembre. Le 4 novembre, c'est pas la fin de l'histoire. Et le 5 non plus. C'est-à-dire qu'il y a un combat qui a été mené avant le 18 novembre 84, avant l'insurrection du peuple kanak en 84, mais le fait que les Kanaks se soient mis debout en 1917, en 1878, c'est un grand mouvement qui est dans le temps. Donc, c'est pas le rendez-vous du 4 novembre, c'est pas la fin de l'histoire. Deux ans plus tard, le deuxième référendum, ça sera pas encore la fin de l'histoire. Voilà. Et moi, j'ai de l'espoir parce que il y a des glissements. Voilà. Il n'y a pas de bloc comme ça. En 30 ans, on a pu voir, et moi j'ai pu voir ce glissement même démographique, et que ce n'est pas du symbole. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, je ne voyais pas de mixité dans les tribus. Je voyais des couples mixtes d'origine européenne et kanak en ville, mais pas dans les tribus. Et depuis quelques années, je vois cette mixité dans les tribus. Dans la tribu de Paul Néodine, il y a des jeunes calédoniens d'origine européenne qui vivent avec des Kanaks dans les tribus, c'est-à-dire qui se plient à la vie, à la coutume, etc. Et ça, j'ai vu ça un petit peu partout, c'est qu'il y a ce glissement qui fait que des gens vont pas être dans le noir ou blanc. Blanc, on est anti-indépendantiste. Noir, on est indépendantiste. Il va y avoir ces glissements. Et ces glissements qui sont travaillés aussi dans la société océanienne. C'est-à-dire que les Futuniens, les gens de Wallis et Futuna, qui sont représentés par un parti politique indépendantiste qui fait partie du FLKS, le RDO, travaillent. Il n'y a pas cette peur qu'il y avait il y a encore 10 ans de l'indépendance. La petite jeune femme Rose Barré porte cette peur qu'il y a 10 ans on entendait partout. C'est-à-dire que la France, elle nous donne à manger, la France, elle met l'argent. Bon, voilà. Mais il y a moins en moins cette peur. Et le pari que beaucoup de dirigeants indépendantistes font, parce qu'ils sont minoritaires démographiquement, c'est qu'il y a ce glissement qui fait qu'un certain nombre de Calédoniens, de Caljoches, qui n'ont pas des intérêts économiques énormes à protéger, à défendre, fassent le pari du vivre ensemble, du destin commun et de l'indépendance. Voilà. C'est un pari qu'ils font. Moi, je ne sais pas si c'est utopique ou si c'est bisounours ou pas, mais c'est l'état des lieux aujourd'hui. Je terminerai en disant quelque chose. Il va bien falloir voir qu'après le 4 novembre, il y a un autre rendez-vous très important, ça va être au mois de mai, et qu'il n'y a que 3, le mois de mai, qui va avoir les provinciales, donc on va redistribuer les rapports. Pardon. Si c'est le nom qui l'emporte. Si c'est lui, ça sera indépendance. Mais si c'est le nom qui l'emporte, il va y avoir... Mais oui, si c'est lui qui l'emporte, il y a une assemblée constituante, et il y a une période de 2 ans pour... Qui est la mise en place d'indépendance, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Voilà. C'est dans un document qu'on peut voir sur Internet, c'est dans le projet de société des indépendantistes, il y en a 2 d'ailleurs, qui est très détaillé sur ce que nous voulons, la place des autres, la démocratie, le rapport avec le Pacifique, le rapport avec la France, etc. Mais en mai 2019, il y a un rendez-vous important. Et il y a au Congrès 3 postes qui font la différence entre direction anti-indépendantiste ou direction indépendantiste. Et c'est... Bon, voilà. On risque peut-être d'avoir aussi des surprises de ce qu'on a. Donc l'histoire est en train de s'écrire, mais l'histoire ne s'arrête pas à la semaine prochaine, au 4 novembre. La volonté de chacun, c'est qu'il n'y ait pas de coercition, de violence dans ce processus, mais les Kanaks n'ont pas dit leur dernier mot.
Dans le micro. Oui.
Merci Mehdi, je suis tout à fait d'accord avec toi dans la Nouvelle-Calédonie. J'ai souvent ressenti le fait que si ce n'est pas le 4 novembre, ça sera la prochaine fois. De toute façon, les gens vont évoluer. Et j'ai ressenti ça chez de nombreux jeunes. Par contre, dans ton film, j'ai beaucoup aimé, mais je reste sur ma faim, sur une chose. On parle des différentes communautés et je ne vois que, dans le film, je n'ai vu que les Kanaks et les Caldocheurs. Certes, les Kanaks sont minoritaires, il y a encore d'autres minorités, mais moi, peut-être que ce sera un autre film, mais les Asiatiques et les Wallisiens, par exemple, j'aurais aimé qu'ils aient aussi leur droit à la parole.
Ouais, c'est dans le prochain film que je devais tourner maintenant, là. Mais comme je n'ai pas eu le soutien du CNC, qui s'appelle le Centre National de la Cinématographie, donc c'est dans le deuxième film qui s'appelle Le Souffle de Novembre, qui fait que je suis avec vous ce soir, mais je ne devais pas être là. Et dans le deuxième film, il y a déjà enregistré des personnalités comme Taïeb Haïfa, Jean-Pierre Haïfa, voilà, comme Sakho Alosio, qui représente la communauté. Voilà. Il y a toute une série de gens qui sont déjà en boîte, qui représentent les autres communautés de Nouvelle-Calédonie et qui ont des choses très très importantes à dire. Voilà. Voilà, pas de sous, je suis avec vous ce soir. Mais bon, le deuxième film, il va exister, et il va combler justement ce manque pour ce premier film. Quoi.
Alors, plusieurs demandes de parole. Hein. Madame,
je crois que j'ai le micro.
Monsieur, allez-y, oui, je vous en prie.
D'accord.
Allez-y, mais je repère ceux qui ont demandé la parole.
Il n'y a pas de souci, merci. À vous. Bonjour à vous, bonsoir. Je me présente Olivier, je fais partie du mouvement Le Réveil K. J'ai une question à poser. Tout d'abord, le 4 novembre prochain, il y a un référendum sur l'indépendance kanaki. Ce référendum n'a pas commencé aujourd'hui, n'a pas commencé hier, n'a pas commencé l'année dernière, mais il a commencé bien avant ça. Dans les années 80, si ma mémoire est bonne, il y avait un mouvement indépendantiste mené par Jean-Marie Tjibaou qui a été exécuté par l'État français. Et aujourd'hui, je trouve choquant que ce soit encore la France qui prenne les choses en main pour mener à bien ce référendum. Sachant que, comme le dit la résolution de l'ONU, tout peuple a droit à son autodétermination. Donc, comment peut-on croire que la France va mener à bien ce référendum quand elle a exécuté les leaders qui voulaient leur autonomie, voire leur indépendance?
Merci. On prend plusieurs questions, peut-être, puisqu'il y a eu plusieurs demandes de parole, par ici, et puis Mala. Alors, si le micro peut... Par là, en tout cas, madame. Donc voilà, à ce sens-ci, si on peut lui faire passer. Voilà.
Bonjour.
Ah bah, attendez. Bah, vous... Vous avez... Allez-y, monsieur. Je pense que c'est plus logique. Vous avez le micro et vous aviez aussi demandé la parole. Allez-y.
Bonjour. Donc, moi, je suis Mabadi, je suis des Comores. Je n'aurai pas de questions spéciales, peut-être une ou deux observations. Dans ce que j'entends, en fait, mathématiquement, c'est le non qui l'emporte. Et on nourrit de l'espoir sur le prochain coup. Sauf que ce que j'ai en même temps appris et qui était déjà annoncé aux dernières rencontres, c'est qu'il y a une division qui s'est opérée au sein de la partie indépendantiste, à savoir les Kanaks. Donc je reste juste à réfléchir sur le propos, puisque nous tous, le travail doit continuer. En tant que Comorien, je n'aurai pas de leçons à donner ici, puisque je suis d'un pays où une partie de mon territoire est occupée jusqu'à maintenant. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas su surmonter les problèmes de division jusqu'à faire sensibiliser, y compris l'opinion internationale, sur ce grave problème de partition d'un pays qui est indépendant aux yeux de l'ONU. Je donnerai une ou deux informations comme ça. Il y a un des faits, c'est que, parlant de l'ONU, il y a un contrôle qui va être opéré pendant le référendum, là. Et nous avons appris que dans la commission de contrôle, il y a une Comorienne, elle s'appelle Nadia Turki, qui, elle, a une parole très claire que l'on peut retrouver aujourd'hui sur Internet, etc., sur la dénonciation de l'occupation française de l'île de Mayotte. Donc, c'est plutôt, me semble-t-il, une bonne nouvelle. Surtout en ce moment où, dans l'ère Macron, il est clairement établi que la France coloniale y travaille de très près, même très fortement, sur l'axe Indo-Pacifique. Ce qui n'est pas très rassurant. Sachant que les divisions et toutes ces questions de symbolique là, le 5 mai, et bientôt d'ailleurs nous apprenons par la presse que Dès le 5 novembre, je crois que le Premier ministre français va débarquer à Nouvelle-Calédonie. Toutes ces symboliques-là, hein, c'est-à-dire que d'ici où nous sommes en tant que soutien, je pense que c'est important de regarder ces choses de très près. Et je finirai par un autre exemple qui n'est pas anecdotique. On a parlé tout à l'heure du Vanuatu. Et on vient d'élire comme ambassadeur un certain, si ma mémoire est bonne, Roby Judes, comme ambassadeur au Vanuatu. Le Vanuatu a une position qui est pour le moins embarrassante pour le colonisateur français. Et cet ambassadeur qu'on vient de nommer, il a été ambassadeur aux Comores. Donc je peux en dire un petit mot, juste pour le coup, d'un point de vue anecdotique. Rappelez-vous cet épisode où le président Macron a commis un humour pour le moins douteux sur les Kwassa Kwassa. Eh ben, on a été faire une manifestation devant l'ambassade de France à Moroni, au Comores. Et ce monsieur prend le micro pour dire vous pouvez circuler, le président français ne présentera jamais des excuses à des Comoriens. Je vous remercie de votre attention, c'est tout ce que j'avais à placer.
Merci, madame.
Oui, bonsoir. Ça fait 30 ans que je vis en France, donc je ne sais plus grand-chose de la Calédonie aujourd'hui, à part le fait que ma famille y vit et que du coup j'ai forcément des nouvelles. Juste un petit rectificatif par rapport à ce qui a été dit par le monsieur Dufond, parce que s'il est vrai que Éloi Machereau a été tué par la France, effectivement, et on a vu Caroline Machereau, sa sœur, qui était signataire des accords Matignon, vous lui avez donné la parole, mais ce n'est pas vrai de Jean-Marie Tchibor. Il a été assassiné par Tchoubili Ouéa. Effectivement, on voit bien Ouéa à quel point ça reste trouble, etc., mais ce n'est pas la France qui a armé ni rien. Enfin, c'est, on ne peut pas dire ça. C'est suffisamment souffle. Bon, voilà. Moi, je voulais, à l'origine, je n'avais pas pris le micro pour ça, parce que j'avais demandé la parole avant. Je voulais juste vous demander pourquoi vous n'avez pas interrogé Niaoudine, parce que c'est un exemple d'indépendantiste qui arrive au pouvoir de la province nord et où ça fonctionne, où il y a un développement économique. Donc là, c'était intéressant, justement, de... Et puis, il y a aussi Élie Poigoune qui fait partie de la Ligue des droits de l'homme, qui a un point de vue qui est décalé, hein, par rapport à tout, un autre point de vue, justement, mais qui faisait... Alors, il me semble qu'il faisait partie des foulards rouges, non, c'est ça. Il faisait partie... Élie Poigoune, c'est une figure pour la Calédonie. Voilà, c'était juste pour poser ces deux questions.
Je les ai enregistrées. J'ai passé beaucoup de temps avec Paul Néaoutine dans sa tribu à Aboa. J'ai passé beaucoup de temps avec Élie Poigoune, que je connais depuis... On le connaît depuis longtemps. J'ai enregistré le grand chef Siazé aussi, donc Alessio Sacco, Taïe Baïfa. Voilà. Tous ces gens-là sont enregistrés, seront dans le prochain film. Hein, voilà. Voilà. Donc, j'ai pas omis de le faire, je l'ai fait. Il y a un deuxième film qui suit, Le Souffle de novembre. J'espère que je vais le faire dans les mois qui viennent. Par rapport au rôle de la France, alors la France, puissance coloniale, peut-elle être neutre ou non dans ce processus électoral? Ce qu'en disent tout le monde et tous les observateurs, c'est que ça va être une élection à la loyale. Il y a des observateurs de l'ONU, il y a eu une volonté dans les comités de signataires de faire que ceux qui ne pouvaient pas voter parce qu'ils étaient dans les îles où ils étaient urbanisés à Nouméa alors qu'ils étaient au nord, vont avoir accès à des bureaux de vote spécifiques pour la première fois à Nouméa. Hein, donc, les Iliens n'auront plus besoin de faire de procuration parce qu'il va y avoir des bureaux de vote attribués à Nouméa, comme pour les gens du Nord, etc. Ça ne mange pas de pain, hein, pour l'État français de faire une, une élection à la loyale. Voilà. Parce que, bon, comme démographiquement, il y a ce hiatus qu'on a soulevé tout à l'heure, bon, voilà. Je pense que ce qui va se passer dans une semaine va être très, très, très regardé, très surveillé. Et je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de possibilités de triche ou de malversation la semaine prochaine par rapport à ce vote.
Vous vouliez dire quelque chose? Vous vouliez réagir tout à l'heure? Non? Il y a quand même le problème de gens qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes. Hein. Et le film en témoigne. Hein. On voit une jeune femme qui explique qu'on lui demande de prouver sa résidence depuis 10 ans alors qu'elle est née dans l'île. Problème. Oui, allez-y.
Oui, juste pour préciser au niveau de... que tout va être loyal, il n'y aura pas d'irrégularité, mais les irrégularités, elles ont été faites avant. Donc c'est sûr que ça sera loyal. Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits sur les listes qui n'avaient pas à y être. Qui ne justifiait pas. Ça a été, il y a eu beaucoup de recours qui ont été, bien sûr, les indépendantistes ont été déboutés, mais beaucoup de gens se sont inscrits sur les listes, sur le grand Nouméa, qui ne devait pas y être, parce qu'il fallait justifier des intérêts matériels et moraux, et dans les comités spéciaux qui décident un peu qui peut être inscrit, qui ne peut pas inscrire, la majorité, ça se fait à vote à main levée. Et la majorité, ce sont des loyalistes, c'est représentants de la commune, représentants de l'État, représentants des partis non indépendantistes et un seul représentant des partis indépendantistes. Ça veut dire que sur 5, il y a 4 loyalistes. Donc beaucoup, il y a eu beaucoup d'irrégularités, c'est beaucoup trop tard. Bien sûr que le jour du vote, il n'y aura sûrement pas de fraude. La fraude, elle a été faite avant. Les indépendantistes ont contesté ces listes énormément. Même il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup de recours qui ont été faits. Ça n'a pas pu aboutir. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Parti Travailliste et l'USTKE ne participent pas à ce référendum, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le corps électoral. Deux fois, les listes ont été ouvertes à des nouveaux arrivants, c'est-à-dire faut être là-bas depuis 1994, alors qu'au départ, c'était juste les Kanaks, droit coutumier et droit commun, et les descendants de ce qu'on dit les Caldoches, les descendants de bagnards, de colons, enfin les gens qui sont là depuis très longtemps, eux, il y a longtemps que les Kanaks les ont acceptés, sont légitimes en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est, le problème, les listes, c'est un dossier très très sensible, et ce sont les nouveaux arrivants que les indépendantistes, le Parti Travailliste et le STKE contestaient. Voilà, maintenant c'est bien trop tard pour contester tout cela, quoi.
Bonsoir, je suis originaire d'Ovéa, donc je me permets de prendre la parole parce que j'ai aimé le documentaire de Mehdi, hein, c'est un frère qu'on a vu tout jeune en arrivant à Paris, parce que, qu'on l'a connu quand on allait aux réunions avec Tonton Jimmy Ounei, pour ceux qui connaissent Ounei, qui nous a quittés maintenant. Donc voilà, alors on se permet de prendre un peu la parole parce que même si on n'est pas nombreux là, ça fait un peu penser au vote là du 4 novembre là, mais bon. Donc je suis venue, j'ai raté le premier film. Donc d'abord je vais dire merci aussi au grand monsieur de Félix, hein, qui a fait beaucoup pour notre pays et puis à travers le monde. Et pour en revenir à ce deuxième reportage, ben, j'étais trop touchée parce que j'avais beaucoup de gens de ma famille que je revoyais. Surtout Kenny, là, qui était un rescapé de la grotte, là. Donc voilà, ceux qui sont passés par Fresnes et qui ont été très épaulés, soutenus par Françoise Pertus aussi, qui nous a quittés, Jimmy Ounei, de Félix, etc. Et toutes ces personnes qu'on n'oublie pas, hein, on a des fois la pudeur où on est trop, comme on dit, toujours sauvage, mais dans le côté un peu, voilà, respect de quand on repense à ces moments-là, on n'a pas oublié toutes ces personnes qui étaient là pour nos prisonniers. Je voulais dire surtout, voilà, j'étais moi sur OVA quand ça s'est passé en 88, juste après le bac, donc c'était très difficile. Et après, c'est vrai que J'ai un moment entendu dans le reportage, je ne sais plus, mais dit un moment, on disait, c'est vrai que la jeune femme qui était interviewée, qui disait qu'on ne leur a pas trop raconté les survivants, etc., de ce qui s'est passé. Peut-être qu'après, avec beaucoup de recul, 30 ans après, comme ça, moi j'y pense, parce que mon grand frère était dans la grotte, il a été aussi un rescapé, mais il était à l'hôpital de Fresnes. Je ne sais pas, comme Kenny, dans le film, s'il a gardé le matricule, d'ailleurs... Ils se sont fait tatouer sur leur corps, là. Et c'est rigolo parce qu'ils ont eu du mal eux-mêmes à en parler à leurs enfants et encore maintenant à leurs petits-enfants. Parce que je crois qu'il y a eu une sorte d'omerta. On a été aussi divisés entre nous, dans le peuple d'Ouvéa, dans les mêmes clans, les mêmes familles. On était, il y avait des divisions, c'était le couvre-feu. Entre nous, on était, on ne pouvait pas clamer haut et fort qu'on était indépendantistes pour la Kanaky. C'était très difficile. Et même avec la milice de droite kanak à l'intérieur de l'île, à l'époque, c'était très difficile de le vivre, quoi. C'était, on se voyait à travers les cérémonies de mariage, de deuil, mais voilà, quoi, on se serrait la main, mais c'était pas toujours ça, c'était pas évident. Et après, je crois qu'on n'a pas fait notre travail, nous, du côté de bien transmettre à nos enfants l'histoire de ce qui s'est passé. Surtout qu'en face, le camp d'en face, avec l'État, avec les médias, où c'était censuré, où toutes les informations, en fait, sont un petit peu sorties beaucoup d'années après, et même au niveau des autres communautés du pays. Par exemple, les autres communautés dont on parle, justement, par exemple, les Indonésiens, les Vietnamiens, ces autres communautés-là, moi, pour nous, c'est vrai qu'on va souvent ressortir, c'est vrai, comme disait la dame, les Kadosh, les Kanaks, mais ces communautés-là aussi, on a accepté qu'ils font partie du peuple, de l'histoire, maintenant qu'on a accepté, parce qu'on est un peuple très accueillant. Je ne pense pas que sinon ailleurs, sinon, comme je le disais quand j'étais il y a plus longtemps rebelle, on aurait dû rester anthropophage, mais bon, on aurait peut-être économisé tout ça pour se retrouver ratatiné dans notre pays. Nous, ce qu'on veut, c'est faire l'indépendance avec tout le monde. On ne peut plus faire marche arrière. Là, tout semble dire, où tous les dés ont été faits, ou avec les fraudes électorales de la grande sœur, la Mina, qui est représentante de l'USTKE à Paris, vous avez entendu que les fraudes, tout a été fait, calculé pour nous, 20 ans, c'était trop court. Ça met trop de temps à démarrer. Les inégalités, certes, elles se sont peut-être atténuées, mais elles perdurent. Quand on dit les inégalités, on parle forcément du clan Kanak, et vous voyez bien les jeunes qui sont ici, qui étudient, qui rentrent souvent, ils n'ont pas de poste. Ils n'ont pas de poste. Pourquoi on n'a pas de poste? Nous, on ne revendique pas d'être Kanak en Kanaky. Voilà, on veut que tout le monde prenne la citoyenneté, la nationalité, en hommage et pour dire merci à ce peuple qui les a accueillis et qui a quand même souffert. Moi, mon grand-père, je l'ai vu ne pas aller à l'hôpital. Le premier bachelier Kanak, c'était fin 60, ça. C'est quand même dans l'histoire, quand on compare peut-être avec le droit de vote des Kanaks ou des femmes ici en France, c'est un petit peu, on va dire, entre guillemets, c'est pas très loin dans le temps, quoi. Si je puis me permettre de donner des ordres de comparaison comme ça. Donc, et comme on disait dans le reportage, j'ai mis la dernière, là, parce que bon, elle est boule raillaise, elle est... entre guillemets, visage pâle, et puis elle est, je crois que c'est la première que je vois depuis la lutte du peuple kanak, parce que j'ai posé la question à la fête de l'humanité à certains, il n'y a pas beaucoup de blancs que j'entends, ou de couleur blanche, entre guillemets, mais ce n'est pas du tout à connotation, raciste, c'est-à-dire non kanak, qui s'est dit pour l'indépendance, quoi. Je crois que c'est une des premières que j'entends, parce que c'est vrai que des kanaks, il y en a qui sont pas pour l'indépendance, et dans ma famille, dans d'autres clans, etc., mais on continue à s'aimer, à se voir, à couper la viande ensemble, à partager des travaux coutumiers, quoi. Mais c'est vrai que du côté de nos élus indépendantistes, je crois, c'est qu'on n'a pas assez travaillé d'enlever cette peur d'en face, ce discours, comme on l'entend, là, de Sonia Baquès et compagnie, là, de nous faire dire que oui, c'est comme le Vanuatu, ça, c'est fatigant et c'est plus digne, on est en 2018, quoi. Même pour des personnes qui ont une histoire, qui aiment la Calédonie, la Kanaky ou la Nouvelle Kanaky, comme ils veulent, nous, on veut travailler tous ensemble. On a accepté tout le monde. Citez-moi un pays dans le monde, j'ai fait des recherches, je ne crois pas que j'ai vu un pays dans le monde, colonisé ou pas, qui a accepté autant de concessions que nous. Et, et de pardonner dans l'histoire d'OVA aussi. Parce qu'il faut se rappeler aussi, pour moi c'est important parce qu'originaire de là-bas, et pour les Kadosh ou les autres non-Kanaks ou Calédoniens avec un K ou avec un C, sachez que dans le travail de réconciliation pour les 19 d'OVA, mais j'ai envie de dire les 23 hein, si on compte les 4 gendarmes, il faut savoir dans le travail de réconciliation, paradoxalement et de façon, c'est vrai, avec du recul, que les familles des gendarmes ont accepté le pardon avant celle des Kanaks entre nous, quoi. Et pour rebondir sur ce que madame avait dit, c'est vrai, Yewene a été assassiné avec Tibaou par mon oncle Djoubeli Louéa. Alors ça, c'est dans les faits, hein. C'est dans les médias. Il faut quand même se dire qu'on vit dans une époque maintenant ultra, ultra numérisée, avec beaucoup d'informations. Et si on côtoie un peu des médias comme Mediapart, moi, d'un côté, avec du recul, jusqu'à présent, j'y crois pas que c'est vraiment Djoubeli Louéa qui les a assassinés. C'est, tout a été calculé, vous savez, les affaires d'État dans le monde, JFK. On peut même aller arriver jusqu'à s'imaginer des choses comme ça, quoi. Ça a été très facile. Quand vous savez qu'on a détripé les 19 d'OVA. On n'a pas dit ça, tout ça, juste après, ni aux Calédoniens, ni etc. Où c'est qu'on a fait ça? Et après, on nous a traités de barbares, de terroristes et tout ça. Ça, il faut que l'opinion publique ici, qu'on remercie, qui nous ont soutenus aussi, hein, de la Ligue des droits de l'homme, de la ISDPK, de toutes ces personnes qui nous ont soutenus et qui étaient là pour les prisonniers quand ils ont été amnistiés. Voilà. Moi, c'est vrai que j'explose un petit peu, je mélange un peu tout là, parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe, c'est 30 ans, mais 30 ans, c'est vrai, quand on entend nos jeunes Kanaks et non-Kanaks maintenant ici qui sont étudiants, avec l'ère du numérique, avec les smartphones, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air, voilà, et puis ils ont tous des masters, voilà, c'est difficile de penser à dépendance, ils s'entendent tous bien, c'est très bien, surtout ceux qui sont nés après 88. Nous, on leur demande et on leur répète de ne pas oublier la mémoire, c'est comme ceux ici qui sont morts en 39-45, ceux qui sont morts pour les grandes guerres, etc., ou les injustices, voilà, en Vendée, etc. Donc c'est pour dire que nous, tout ce qu'on demande, c'est de travailler ensemble. Mais comme disait Isabelle Leblic, c'est vrai qu'on a souvent tendu la perche, mais de l'autre côté, on ne voit pas autant de... Voilà. Et donc on pourrait vivre en Nouvelle-Kanakie avec une citoyenneté kanak, que ce soit des typés asiatiques, wallisiens, etc. Ça serait, voilà. Et ça serait peut-être pour nous ici considérés ou sur le terrain comme citoyens de seconde zone, un peu entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment reconnus comme des ultramarins français. Souvent on se retrouve à aller demander nos papiers à la mairie, on nous demande si on a une carte de visa ou de voilà. C'est rigolo. Alors, autant qu'on soit indépendant, peut-être qu'on va être connu, peut-être... Ah, c'est vrai, ils étaient français, quoi. Donc, voilà. Mais je ne vais pas m'attarder, mais merci et bonne soirée.
Merci à vous. Merci à vous. Vous avez vraiment soulevé beaucoup de points importants. Et vraiment, merci de votre intervention, de votre témoignage. Allez-y.
Merci. Tout d'abord, merci à Daniel Blondet du collectif Ni guerre, ni état de guerre. D'abord, merci pour cette réunion là, à SDPK avec des droits de l'homme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réunions d'information actuellement, enfin, pas seulement actuellement d'ailleurs, sur la Kanaky. Je voulais juste dire deux choses. La première, c'est que je suis toujours un petit peu gêné sur la question d'OVA. Je dis ça parce que dans le collectif Nigan et Tadgar, quand on fait la propagande, on dit bon, la France est en guerre. La plupart des gens disent bon, la France est en guerre, où ça, il y a une guerre. C'est un peu pareil sur les colonies, quand on dit qu'il y a des colonies françaises, mais, ah bon, la France est encore coloniale. Et sur la question de l'OVA, autant je comprends tout à fait la politique de réconciliation, je ne veux pas, comment dire, commenter cette politique et ce qui est fait là-bas, mais il y a quelque chose pour nous, anticolonialistes, qui doit être important, c'est de montrer ce qui s'est passé vraiment au vert. C'est-à-dire, c'est un acte de guerre terrible, c'est une action de guerre épouvantable, avec des crimes de guerre. Bon. Donc je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais juste pour signaler qu'il y a un très bon bouquin qui vient de paraître de Joseph Andras, qui s'appelle Kanaky, qui est là, le bouquin, oui, c'est ça, voilà, merci. Andras a déjà fait un bouquin sur Ifton, l'Algérien, et donc qui restitue bien, à mon sens, tout ce déroulé, à travers des témoignages vraiment très très forts, de vraiment un acte de guerre. La deuxième chose, très rapidement, c'est que le 5 novembre, bon, sans être très pessimiste, je pense quand même que le peuple kanak sera devant ses colonisateurs, encore, et que nous avons vraiment un gros travail à faire pour, comment dire, continuer à expliquer qu'il y a une structure coloniale là-bas qui persiste et qu'il faut arrêter de manière ou d'une autre. On n'a pas, nous, à donner, enfin, en tant que, moi, j'estime en tant que Français, à donner des orientations sur la manière dont ça doit se produire là-bas en Kanakis, au Kanak de décider. En tout cas, nous, en tant que Français, on doit vraiment informer sur ce qu'est la situation en Kanaki. Et à ce titre, j'appellerai vos deux organisations à faire qu'on se retrouve à plusieurs, à beaucoup, pour essayer de faire des conférences débats, restituer la parole, parce qu'il y aura beaucoup d'analyses qui vont être faites par nos camarades kanaks, j'imagine, à partir du 5, qui vont faire le point là-dessus, et puis j'espère qu'ils vont se retrouver ensemble pour affronter cette nouvelle situation, alors qu'il y a des divisions. Mais nous, on a un gros travail à faire, et j'espère qu'on pourra le faire ensemble, et donc c'est un appel aussi à se retrouver à partir du 5 novembre pour des réunions plus fortes, plus nombreuses, et avec plus d'organisations présentes. Voilà.
Merci, on ne peut qu'accepter ce défi et ce projet de continuer à intéresser nos concitoyens à cette question de la Nouvelle-Calédonie. Et on ne peut que relever que pour le moment, hein, en dehors de certains médias, on a cité Mediapart en particulier, qui met en ligne d'ailleurs tes deux films, hein, Mehdi. Comment ? Il y a même 5 films, oui, puisqu'il y a Ataï, OVA, etc. Enfin, il y a 5 films de Mehdi qui sont accessibles sur le site de Mediapart, dont les deux que nous avons vus. Hein. Donc, en dehors de médias comme ça, eh ben, c'est silence quasi complet, hein, dans la presse française, parmi les forces politiques, sur cet événement important qui est ce référendum du 4 novembre. Alors, dernière question, dernière intervention, allez-y.
Alors, bonsoir à tous. Alors, pour ma part, ce sera une petite intervention. Je me présente, je m'appelle Théo Lubin, je suis président d'une association qu'on appelle le Comité d'organisation du 10 mai, puisque c'est la date qui commémore la date de l'abolition de l'esclavage en France. Et nous aussi, je suis membre d'une association qui s'appelle Rencontre Réconciliation, et qui organise dès la semaine prochaine, le 3 novembre prochain, samedi prochain, Esclavage et colonisation, Université populaire, réconciliation, pourquoi, pour qui, comment. Alors, dans cette université populaire, nous avons pris le soin d'inviter des représentants des ultramarins, entre autres Serge Glaude, qui est un ancien membre du GONG, le GONG que vous avez dû entendre parler à l'époque de mai 67 et dans les années 80, parce que c'était pendant les périodes de mouvements sociaux en Guadeloupe, où il y a eu plus d'une centaine de morts tués par la police française parce qu'on disait qu'ils voulaient être indépendants. Alors vous voyez, déjà avant la Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, déjà, il y avait déjà ce système de répression. En Martinique aussi, puisqu'en en février 1974, qu'il y a eu aussi des morts pour les mêmes raisons, pour des mouvements indépendantistes et des travailleurs aussi. Et pourquoi on organise cette rencontre, réconciliation ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est une thématique qui a été abordée et qui doit se réconcilier. Parce que, en tout cas, ce ne sont pas les victimes, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est surtout ce qu'on appelle nous les bourreaux, c'est-à-dire ceux qui nous ont colonisés. Alors, je vous invite samedi 3, puisque cette université populaire, elle va durer jusqu'au mois de juin. Il y aura une série de 7 événements jusqu'au mois de juin. Elle commence par la première thématique, droit à l'autodétermination. Quelle forme de souveraineté pour les peuples autochtones et collectivités d'outre-mer. et je vous invite à découvrir cette, parce que j'ai ce fly, à récupérer le fly, comme ça vous aurez toute l'information de la programmation. Il y aura un spectacle, parce que j'invite spécifiquement la communauté Kanak à participer à cet événement, parce que nous sommes à la veille de ce référendum. Et donc il y aura aussi un spectacle, ça terminera par un spectacle, où c'est un groupe Kanak qui viendra avec une troupe de danse Kanak qui viendront à terminer cette journée d'université populaire qui se déroulera au 100 rue de Charenton à Paris dans le 12e. Voilà. Et si vous voulez avoir des informations, vous pouvez récupérer des tracts ou m'en demander, je vous en donnerai. Merci beaucoup. Et j'aimerais surtout présenter mon ami Kanak qui est à côté de moi, qui est un grand poète puisqu'il est champion de France de poésie, qui s'appelle Gib, Jean-Yves Bertegal, qui pourrait nous faire un.
Ben, je vais rendre hommage au réalisateur. Kanaki, au mois de décembre 2014, dans tous les médias, on nous disait des Français ont coupé la tête à un barbare. Des barbares ont coupé la tête à un Français. Et oui, c'est vrai. En Algérie, Hervé Gourdel a été décapité. Ce même mois de décembre 2014, en catimini médiatique, dans les journaux, dans le monde, on voit apparaître l'Hexagone renvoie en Kanaki la tête du chef Ataï et de son guérisseur Mesh. Kanaki, je suis la canne à qui veut mon nickel et qui de ma vie la nique elle. Une tête tombe, une autre revient. Cruelle diplopie. Entre les barbares d'hier et ceux d'aujourd'hui, la mort râle par ses sincérités. La morale n'est jamais de la même sincérité, jouant sur la distance qui nous nuit. Coutumier fut notre Sénat et nous avions la chefferie. Ils imposèrent leur indigénat, à nos refus leur chefferie. Malgré les implorations des pleureuses, aux muses aidées, gobelins femmes, le malgré sur ma tête exposée, heureuse, aux muses aidées, gobelins femmes. À Paris, faire pleurer dans les chaumières, à Paris, patrie des Lumières, moi, chef bataille, fier de mes batailles, je perds la tête à la cape des nations pour devenir trophée de civilisation. Mais je garde la foi. De cette horrible vision de colons, je vois le spectre de colons. Déporté avec mon guérisseur, trompé par leur régisseur. Quand tu ponces la fleur des spots, elle devient des spots, et surf sur la vague qui ne déchirac que l'hymen de la fleur du mal. Capitulation au bourreau, car là n'est plus le temps de paix, mais celui de la peine. On nous parle de conciliabule tandis que le Mitterrand déclenche l'opéra. Dans ce vide atavique, tortueuse stratégie, éviction hors de nos terres pacifiques, mettons en fantaisie le gabegie de vie. Mais quand les moralisateurs, les encenseurs, calibre la liberté d'expression, même si je suis en censeur, au bout de leur plume dite de raison, ô ma pauvre France d'hier, vive celle d'aujourd'hui, où on réfléchira ensemble de ces histoires qui nous rassemblent, de tous ces gens qui nous ressemblent.
Merci. Merci. Vous pourrez le retrouver justement la semaine prochaine, qui sera parmi nous pour cet événement Rencontre Réconciliation. Merci beaucoup.
Merci vraiment, et peut-être le tout dernier mot. Amédée Lalaoui, donc, dont le film sur Ataï est disponible à la table un peu plus loin.
Merci, merci beaucoup de terminer cette soirée d'hommage à Jean-Jacques de Félis et ce point sur Nouvelle-Calédonie en poésie. Il y a un magazine de la BDIC de Nanterre, un matériau pour l'histoire spécial Jean-Jacques de Félis. Il y a des DVD, des livres pour vous informer. On vous remercie de vous être déplacé pour cette soirée et on vous tiendra au courant de la suite. À bientôt.
Et merci à Gilles qui, depuis un an, me dit qu'il faut qu'on organise quelque chose. Et merci pour ta tenacité. Merci à vous tous. Merci Isabelle. Merci Lévi.